Bulle d'histoire. Stéphane Dubreuil.
Wow.
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle bulle d'histoire sur Art District Radio. Je reviens donc sur Art District après quelques semaines d'absence, mais quelquefois le temps ne se dilate pas assez pour pouvoir tout faire. Donc là, grand plaisir de revenir et surtout un grand plaisir d'être avec Laurent Bonneau, dessinateur de bande dessinée, pour un album, je dirais, envoûtant, très étrange, très étonnant, dérangeant. Le titre, c'est « Ce qui me touche », c'est publié par les éditions Grand Angle. Laurent, bonjour, je te pose la question traditionnelle qui ouvre les bulles d'histoire. Qui es-tu et d'où viens-tu?
Bonjour. Qui je suis? Je suis artiste, auteur de bande dessinée, notamment dessinateur. Et particulièrement ici, donc, pour la bande dessinée « Ce qui me touche », scénarisée par Damien Marie, aux éditions Grand Angle.
Oui, t'as déjà une carrière bien fournie.
Oui. J'ai commencé jeune, j'ai commencé à 19 ans la bande dessinée aux éditions Dargo. Et depuis, j'ai fait une vingtaine de livres, dont, je pense de mémoire, 15, 16 ou peut-être 17 BD, je ne sais pas trop, chez différents éditeurs. Voilà.
Donc, ce qui me touche, le titre est un peu étrange. On va savoir au fur et à mesure de la lecture qui sont ces gens qui vous ont touché et qui touchent les lecteurs. Avant de parler de ce qui fait l'album, est-ce que tu peux nous raconter le début de l'histoire?
Tout début, nous suivons donc Fabien et Aude, sa femme, qui essaient d'avoir une fille, enfin d'avoir un enfant, et donc quelques pages plus tard. Donc on arrive 5 ans plus tard, exactement, à travers une ellipse. Et donc ils ont donc eu une fille qui s'appelle Elisa. Et on les retrouve dans cette situation familiale compliquée, parce qu'ils sont pris dans les rouages de la modernité, du travail et des complications familiales qui les obligent du coup à se croiser. Ils sont dans une espèce de précarité. Assez vite, on comprend donc que Aude est infirmière à l'hôpital et que Fabien lui travaille à l'usine, à l'abattoir exactement, à l'abattoir porcin.
Oui, il découpe des porcs toute la journée.
Exactement.
Et en fait, il se voit très peu parce qu'elle a fait des longues journées, lui aussi, il dort en décalé.
Ouais.
L'album commence sur des scènes très banales de la vie quotidienne, des gens qui veulent avoir un enfant, des copains qui plaisantent, non, t'as tort, tu vas voir, tu vas pas dormir, et ainsi de suite. Donc c'est aussi une sorte de quête du bonheur, commencer comme ça en tout cas.
Oui, tout à fait, mais même tout du long de l'album, je pense que c'est une question qui est soulevée en fait par le personnage, tout à fait. C'est une question sous-jacente à notre époque aussi, la quête du bonheur dans une société qui est parfois le met en avant et en même temps ne l'autorise pas tout à fait, quoi.
Donc ils vont avoir un enfant, une petite fille, qui va être un des personnages très très importants de l'histoire. Et très très vite, il y a une sorte d'ambiance très angoissante, très oppressante qui s'installe, qui est due au fait du héros qui supporte de moins en moins son travail et de moins en moins de devoir tuer des porcs.
Oui, alors moi je trouve que c'est une des forces de ce récit, et je trouve ça admirable de la part de Damien d'avoir réussi à traiter plein de thématiques très différentes. Vraiment, je pense que cette histoire aborde plein de sujets, et notamment des sujets parfois sombres et durs. Pour utiliser ces mots, je sais qu'une de ses intentions, c'était de montrer du doigt un petit peu le déni de notre société vis-à-vis de ses culpabilités, comme la production de chair animale, ou les plus démunis qui sont dans le désespoir, ou encore la marchandisation de toute forme d'œuvres d'art. Donc voilà, des différentes thématiques comme ça. Après, à côté de ça, il y a des formes plus lumineuses, comme l'amitié, comme l'amour filial, il y a des choses qui viennent un peu en contre-pied de ces éléments plus sombres. Mais dès le départ, dès les premières pages, effectivement, il y a le cadre qui est donné, et je trouve dans l'histoire, hein, là, je parle de l'histoire, à savoir qu'on jongle d'une ambiance à une autre, d'un univers à un autre, parfois l'imaginaire de l'enfant qui est plein de vie, à cet aspect plus, plus sombre et plus froid de l'abattoir, par exemple. Et tout du long du récit, il y a une espèce de parallèle qui se construit et qui vient presque donner de la force l'un à l'autre, quoi. Et c'est ça que je trouvais très judicieux. Et j'ai l'impression, en plus, qu'on suit ce personnage, le personnage de Fabien, en étant, je trouve, assez peu dans le jugement. Enfin, c'est ce que j'avais beaucoup aimé dans le scénario original de Damien, c'est qu'on suit ce personnage et on découvre avec lui certaines choses, avec un certain recul. Et il n'y a aucun moment, c'est frontal. À aucun moment, il nous dit, voilà, ça... ça c'est mal, ou enfin, on découvre les choses et c'est à nous, lecteurs, de...
C'est pas frontal et il y a même beaucoup d'empathie, parce que dans la plupart du temps, on se dit, ben, j'aurais peut-être fait comme lui. C'est ça aussi qui est très fort en cet album, c'est qu'il se met dans des situations compliquées et on les comprend totalement.
Ben, tant mieux, merci. Mais effectivement, moi je trouve que dans le récit, il y avait déjà aussi, là-dessus, Damien est très fort, quoi. Il arrive à donner corps à ces personnages. C'est-à-dire qu'ils ont tous une vie, tous un phrasé, tous un... Ils existent même avant que je les dessine. Et donc ça crée de l'empathie, effectivement, dans des situations où, qui sont d'autant plus riches, parce que même si effectivement on suit ce personnage principal et sa fille, qui est donc le moteur presque du récit, la relation entre Fabien et sa fille Elisa, malgré ça, chaque personnage, même si on les voit assez peu, viennent contribuer à un nouveau regard porté, un nouveau point de vue presque sur les situations.
Oui, donc on va aussi arriver au premier, c'est pas un twist, mais au premier événement qui va faire basculer l'histoire. Oui. C'est, vous arrivez très très bien en quelques pages à nous mettre dans l'ambiance des cochons qui arrivent, des cochons qui sont triés pour aller dans l'abattoir ou pas. Ça c'est, voilà, j'ai trouvé en quelques pages, on y était et on se dit. Pourvu que jamais de ma vie je sois obligé de faire ça, c'est assez terrifiant. Mais il y a un événement extraordinaire. Donc le héros découvre un cochon tatoué.
Oui.
Et à partir de là, moi j'ai vu l'histoire comme ce cochon tatoué, c'est l'ouverture vers tout un ensemble de mondes parallèles qui vont se développer les uns par rapport aux autres. De temps en temps, il y a des croisements, comme je le disais tout à l'heure quand on a préparé des courts-circuits. Mais comment vous avez pu imaginer qu'un cochon tatoué pouvait arriver là? Parce que derrière, il y a une autre histoire qui va se développer en plus, quoi.
Tout à fait. Mais alors, cette question, il faudrait presque la poser à Damien, effectivement. Mais...
Il a dû te le dire.
Pourquoi il est amené là? Non, pas nécessairement. Non. Après, le titre original, alors ça peut peut-être donner une clé, le titre original n'était pas Ce qui me touche, c'était le processus de création. Parce que la BD parle aussi de ça. Mmh. Elle parle... Enfin, les deux titres correspondent bien, hein, mais elle parle de ces processus de création différents, qu'ils soient viscéraux, qu'ils soient mercantiles, ou à l'intérieur de l'histoire, on suit différents personnages qui sont tous à un moment confrontés à quelque chose de l'ordre de la création. Que ce soit la petite fille Elisa, ou je ne vais pas non plus spoiler l'histoire, donc je ne vais pas plus loin. Mais je crois que c'était aussi une manière d'amener un peu d'imaginaire, enfin de confronter deux mondes, celui de la petite fille, d'Elisa, qui a 5 ans, avec cet aspect plus radical du monde de la, contemporain, on va dire, du travail. Et certains éléments, comme ce tatouage, viennent permettre aux univers de se croiser, comme tu viens de le dire à l'instant.
Pour ceux qui s'intéressent un peu à l'art contemporain, les cochons tatoués, c'est un travail d'un plasticien belge qui s'appelle Wim Delvoye, qui les a exposés dans des galeries, qui a fait des petites statuettes, enfin, il y a tout un ensemble d'œuvres. Donc c'est aussi... on ne sait pas trop pourquoi ce cochon arrive, on le sait au fur et à mesure, mais c'est l'irruption de l'art contemporain dans ce qu'il a de plus dément, de plus flamboyant, dans un univers très sanglant, l'univers de la mort, l'univers de l'abattoir.
Oui, mais comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment plusieurs univers et plusieurs genres presque dans ce livre. Et c'est ce que je trouve... moi, dès le départ, il y a plein de choses qui m'ont touché. De toute manière, avec Damien, on avait déjà travaillé autour de l'album « Ce qui me reste » il y a presque 10 ans, qui abordait le grave sujet de la maladie d'Alzheimer. Donc on se connaissait, on savait déjà comment on fonctionnait ensemble, on s'était déjà retrouvés dans cet espace de la sensibilité, de l'intimité des personnages, de cette relation père-fille. que l'on a retrouvé ici, avec ceux qui me touchent, qu'on a continué à développer. Et à la première lecture, ce que je trouvais formidable, c'est effectivement qu'on passe d'un genre à un autre, je trouve. Et donc, alors, d'où la problématique pour moi de la première lecture, même si les images se faisaient naturellement, d'où la problématique de savoir comment passer d'un univers à l'autre de manière fluide et en même temps créer des transitions qui ne soient pas trop brutales. Et la solution non intellectualisée que j'ai trouvée, qui s'est proposée à moi assez rapidement de manière intuitive, c'était l'utilisation de la couleur, qui devient un élément pleinement narratif. Et donc il n'est pas une couleur réaliste, mais qui est une couleur par simple tonalité monochromatique, quoi, qui viennent pointer du doigt des ambiances, dans ceux qui me restent aussi, il y avait un petit peu ça, mais qui vient pointer du doigt des éléments. Et qui du coup par elle-même déjà raconte. Enfin, c'est ce qui s'est présenté à moi, mais ça sur le moment c'est intuitif.
Oui, parce que je disais moi qu'il y avait plusieurs histoires parallèles, il y a effectivement l'histoire de ce cochon, l'histoire de la créatrice du cochon, l'histoire du père et de la fille, l'histoire du couple qui est là, l'histoire des amis. Après il y a d'autres histoires encore qui vont s'accrocher avec les maraudes de secours populaire, choses comme ça. C'est plein de films qui se déroulent au même endroit ou au même instant. Il y a de la comédie de mœurs, de la comédie de couple, il y a du drame. Moi, je trouve que c'est un album qui est même très fantastique. Parce qu'il y a, il y a des visions, il y a aussi des planches, justement, le jeu de la couleur où les formes sont très estompées, j'allais dire très peintes. C'est nul de dire ça, mais sans détail, sont très évoqués. Voilà, très évoqués. Donc il y a du fantastique, il y a du réalisme, et quand tu choisis les couleurs, est-ce qu'il y a des codes, est-ce que dans ta tête le rouge c'est le couple, le vert c'est les cochons, ou est-ce que tout ça se fait un peu de façon naturelle?
Non, ça c'est... Enfin, alors, au tout départ c'était intuitif, vraiment. Mais après je me suis cantonné à 4 couleurs, je crois qu'il y en a 4 de mémoire, et qui étaient des repères effectivement, donc l'abattoir c'était toujours en bleu-vert, enfin en turquoise. Avec Elisa, c'était jaune ou orange. Enfin, il y avait quand même des codes quoi, qui nous permettaient de nous repérer dans le temps et par rapport au sujet. Et donc non, ça par contre... Alors, tout l'album est réalisé en encre de Chine et en encre colorée, mais c'est une seule encre colorée. En fait, tout l'album est réalisé en jaune. Et c'est après coup que je décide si ce jaune va devenir ou rose, ou vert, ou orange. Et en sachant que du coup, ça m'offre une liberté, une certaine liberté parmi les contraintes que je me suis imposées, mais... En même temps, en sachant déjà de manière prédéfinie quelle couleur interagira avec la séquence. Quoi.
Parce qu'il faut évidemment parler du dessin, c'est une bande dessinée. Tu as un dessin qui est un dessin semi-réaliste, ça veut rien dire, mais on peut le définir un truc comme ça. Enfin, moi, je dirais même plutôt expressionniste.
Voilà, okay.
C'est comme ça que je le qualifierais. Il y a sans cesse un jeu sur les fonds. Et sur les détails, il y a des scènes un peu détaillées, mais il y a beaucoup de scènes qu'on pourrait croire complètement vides, mais à la fois par la couleur, la position des personnages, tu arrives à nous évoquer des distances, des pièces, des endroits, sans jamais donner beaucoup de détails, uniquement avec des aplats de couleurs. Ça, pour moi, c'est un vrai mystère. Comment on fait des choses pareilles, si tu peux dire.
Je ne sais pas comment. Non, enfin, la seule chose que je sais, c'est que c'est la définition du dessin même, quoi, contrairement à la photo ou au cinéma.
Du style.
En fait, le dessin permet ça. Là, par exemple, si je veux dessiner une pièce, je ne suis pas obligé de la dessiner dans son intégralité. Si je prends la photo, la seule chose que je peux choisir, c'est l'angle de vue, quoi, mon point de vue en photo, mais toute la pièce sera représentée, enfin, tout ce qui sera dans le cadre de la photo. Dans le dessin, non, on peut décider justement de ce qu'on représente ou pas. Si on veut accentuer une expression et ne montrer qu'un visage, c'est tout à fait possible. Et ce que j'aime bien, surtout quand un récit comme celui-ci est beaucoup porté par le texte déjà, où les mots sont déjà, à mon sens, très forts, c'est d'être plus dans la suggestion. Et donc les textes où par exemple nous sommes en voix off, c'est-à-dire dans les pensées du personnage de Fabien, il me semblait plus judicieux et moins redondant de montrer par exemple un gros plan simplement sur le visage ou sur la main ou de faire un travelling ou un zoom envers un élément plutôt que de décrire exactement ce que lui-même pense ou raconte, quoi. Et donc c'est effectivement, dans le dessin il y a beaucoup de suggestions, de transparence.
Oui, il y a beaucoup de transparence. Et moi aussi, ça m'a beaucoup frappé, c'est que les personnages se confondent sans se confondre, justement, avec le fond. C'est difficile à expliquer quand on n'a pas le dessin sous les yeux pour les auditeurs, mais les personnages sont souvent flottants, sont souvent pas très stables.
D'accord.
Je sais pas si c'est une volonté, mais c'est comme ça que je les ai vus.
C'est pas vrai.
Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, on sait jamais trop où ils se situent, si c'est à l'avant, si c'est loin, si c'est près. Il y a une sorte de jeu comme ça, enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti. Ouais. Une sorte de jeu où les personnages étaient sur des... Comment dire, c'est pas sur des balançoires, mais ils sont pas très stables. Après, je trouve que ça va bien avec l'histoire, en tout cas. L'autre truc qui est intéressant, parce que c'est souvent pas traité comme ça dans les bandes dessinées, c'est le thème de l'art contemporain. Mmh. Tu parlais tout à l'heure de la marchandisation à outrance de l'art. Là, il y a une réelle critique de ça. Une critique même acerbe, même très cruelle.
C'est peut-être le passage d'ailleurs le plus satirique, le seul presque, on pourrait dire, parce que les autres sont... Il y a plein de choses qui sont soulevées dans ce récit. Mais encore une fois, ça laisse libre à chacun d'y être sensible ou pas, d'en penser ce qu'il veut. Il y a vraiment... je trouve que c'est pas du tout culpabilisant, à mon sens, comme histoire. Mais c'est vrai que le passage sur l'art contemporain est peut-être le seul qui pointe du doigt de manière un petit peu plus poussée et satirique. L'art, de toute manière, enfin, après, selon mon point de vue, il est partout. Il est vraiment partout. Il est dans les yeux de la personne qui souhaite en voir, quoi. Et je crois d'ailleurs que c'est ce qui est un peu montré, aussi à travers les différents personnages et leurs différentes formes de création. Quand la petite fille, Elisa, est en train de dessiner, enfin voilà, il y a une autre forme de création. Mais ce qui est pointé du doigt ici, c'est pas cet art-là, c'est l'art qui est décidé d'être montré de manière officielle via la marchandisation des œuvres d'art. Et ce qu'on appelle l'art contemporain, quoi, dans les musées ou les galeries. Et effectivement, ça crée un clivage. Enfin, on voit ici cette confrontation entre un art viscéral, un art mercantile. Et bon, après, je vais pas parler pour Damien, quoi, mais effectivement, c'est quelque chose qu'on pointe du doigt.
Oui, ça, c'est une question qui peut te concerner, entre guillemets. C'est que le héros a fait une école d'art appliqué. Mmh. À un moment donné, il essaye de retrouver ses amis parce qu'il veut faire ce cochon, il veut gagner un peu d'argent quand même avec l'art qu'il vient de découvrir, et il s'aperçoit que aucun de ses amis n'a vraiment percé dans l'art ou dans les arts appliqués ou dans l'art en général, quoi. Est-ce que dans la bande dessinée, tu as le même... vous savez, tous fait des écoles, quasiment tous les dessinateurs. Ouais. C'est un peu passage obligé, quoi.
Alors moi, j'ai pas fait des écoles pour faire de la bande dessinée, parce que j'en faisais déjà en étant à l'école. La bande dessinée, j'ai toujours voulu en faire et j'ai commencé professionnellement pendant que je faisais mes écoles, enfin les études à Estienne et aux arts décoratifs de Paris. Donc les études, je les ai faites de manière parallèle, plutôt en me disant qu'est-ce qui peut être complémentaire. La vidéo, la photo, la sérigraphie, l'animation, enfin tout ce qui pouvait m'être apporté par ces écoles. Là en l'occurrence, alors oui, je vois un peu ça et je l'ai un peu vécu, à savoir. Que tous les étudiants en école d'art après n'en vivent pas forcément, inévitablement. Mais là, en l'occurrence, c'est plus, je pense, le point de vue de Damien, qui lui-même avait aussi fait une école d'art appliquée. Et donc là, je pense qu'il y a de l'expérience personnelle. Après, il y a beaucoup de choses très personnelles dedans, de son point de vue et de mon point de vue. C'est-à-dire qu'on a réussi à mêler aussi, même si ça reste une fiction, on a réussi à mêler des choses de l'ordre de nos vies intimes, quoi. Par exemple, clairement, sa fille, en fait, après Ce qui me reste, la bande dessinée qu'on a faite il y a 10 ans, il a été papa d'une petite fille, et ensuite, quelques années plus tard, c'est moi qui ai eu une fille. Et donc on savait, on en avait déjà parlé, on avait dit qu'on ferait quelque chose autour de ça, quoi, de la relation, surtout que dans Ce qui me reste, il y a déjà la relation père-fille. Et donc il a écrit ce livre, et puis au bout d'un certain temps, peut-être 8 ans, il me le propose, ensuite on le montre à l'éditeur. Et en fait, c'était une évidence, quoi. C'était vraiment une évidence qu'on se retrouve autour de ça. Donc lui, il a écrit en y incorporant plein d'anecdotes personnelles. Et moi, je me le suis approprié en dessinant ma fille, par exemple. Donc dedans, la fille, c'est la mienne. Et donc, on a réussi comme ça à entremêler plein de choses. C'est-à-dire que quand il parle des amis, il s'inspire de ses propres amis. Et moi, je dessine les miens dedans. Donc c'est plein de choses comme ça qui se sont coupées.
Mais c'est ça aussi qui fait l'empathie pour les personnages. Moi, j'ai trois filles. Et Effectivement, c'est du vécu, les histoires, les se coucher, enfin tout ça, c'est tous les gens qui ont eu même des enfants, même des garçons, savent ce qui se passe.
Ouais.
Savent à la fois le plaisir que c'est et en même temps la corvée. Enfin, c'est jamais central, les enfants. C'est soit beaucoup, soit rien. Enfin, c'est beaucoup de vécu. Idem pour les amis. Alors, on a presque fini parce que le temps nous est compté, mais il y a aussi une chose il y a deux choses dont je voulais parler avec toi, c'est les dialogues, parce que comme je te disais, tu avais l'air étonné, mais c'est un album qui est entièrement dialogué, donc soit en dialogue réel, soit en voix off. Il n'y a pas de didascalie, il n'y a pas de « il est 4h du matin sur la route, je conduis et j'ai chaud », c'est toujours dialogué. C'est quelque chose qui est très agréable, moi je trouve que c'est très rare, mais on rentre facilement dans cette histoire aussi parce que c'est du dialogue, parce qu'on a un rapport très humain avec les personnages.
Ouais, ben moi ça me surprend parce que je l'ai jamais utilisé, je crois, la didascalie. Donc, puis ça me semblait, je crois que pour Damien comme pour moi, hein, le plus important c'est la fluidité. Et là-dessus on avait une réelle exigence, même si on était dans la grande confiance et la liberté qu'on s'est donné l'un l'autre. On avait malgré tout une grande exigence sur la fluidité de la narration. Et ça en fait partie, je pense, d'offrir des temps morts, d'offrir des transitions, d'avoir uniquement du dialogue comme un fil conducteur comme ça qui se déroule et qu'on soit pris dans l'histoire.
Oui, parce que c'est dialogué, mais c'est surtout évidemment pas bavard, quoi. Les dialogues sont bien choisis, comme tu disais, il y a un grand sens du dialogue et un grand sens de la justesse des mots employés par les personnages. Mais il y a aussi beaucoup de planches presque... Là, je tourne, j'en ai pas trouvé, mais voilà. Beaucoup de planches presque vides, sans aucun mot, où on est uniquement dans la suggestion et dans l'ambiance. Et ça fait partie aussi de l'histoire, de se plonger dans des paysages, dans des moments comme ça. Dernière chose que je voulais évoquer avec toi, c'est le vin et la bière. ça peut paraître un détail, mais... Moi, j'ai trouvé que c'était important parce que ça ancre les personnages dans une sorte de joie de vivre et de ferveur, de la bonne chair, et de bien boire et surtout de partager parce qu'ils boivent jamais tout seuls.
C'est vrai.
Qu'est-ce qui a pris aux dessinateurs et aux scénaristes de mettre des choses très précises comme ça, des marques de bière,
ah ben ça, c'est
des vins, des choses comme ça.
C'est plus Damien. Moi, j'apprécie et je suis légèrement amateur, mais Damien est plus connaisseur, on va dire. Il s'y connaît bien en bière. C'est un très bon connaisseur, on pourrait dire ça comme ça. Il faudrait qu'il le dise lui-même, je peux pas parler de sa part. Mais du coup, oui, il avait à cœur de citer comme ça certains types de bière, certaines choses qu'il a pu goûter lui-même.
Parce qu'on a l'impression que ça vient comme un cheveu sur la soupe, et en fait, non, ça rentre dans la fluidité des choses, et ça montre que ces personnages sont des vrais humains.
Oui, ben en fait c'est des petits détails mais qui concrétisent, qui en plus avec clin d'œil rendent les choses plus réelles, quoi, qui en plus effectivement font partie aussi de ces moments de lumière entre guillemets, puisque c'est les moments partagés autour de l'amitié.
Oui, ils boivent jamais seul, comme je disais, toujours autour d'un bon repas. Laurent, je te remercie de cette trop courte demi-heure passée avec moi pour parler de Ceux qui me touchent. Donc je rappelle que c'est publié par les éditions Grand Angle. C'est un gros et bel album de 224 pages au prix de 24,90. C'est vraiment un album qu'il faut s'offrir, parce qu'en plus c'est un album qu'on a plaisir à relire et à revoir, parce que chaque case est un bonheur de dessin. Alors voilà, j'ai pas l'habitude d'être flagorneur, mais là je dois dire que c'est assez envoûtant. Ton dessin est envoûtant.
Bah, merci beaucoup.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh!
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.